Francisco Caulfield. Go Habs, go! Go Habs, go! On se reparle demain, 14h. Bye.
Salut!
Québec. 102.1. Ville de radio. À l'écoute des citoyens. Notre programmation 100% parlée en semaine est là pour vous. 6h, Marceau le matin, avec Yann Marceau, Max Larouche et Jeff Fortin. 7h55, le pit stop avec Denis Gravel. 10h, le point de Max, maintenant en duo avec Catherine Bachand. Le midi, on jase avec Jeff Fortin, Pascal CV et le caucus avec Antonine Iaccarini. 14h, Gravel dans le retour avec Denis Gravel, Véronique Bergeron et Audrey Pinchot. 18h, Marceau le soir, Boulevard 102.1. Maintenant, 100% parlée en semaine. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Marceau, le soir. Le soir. Le soir. Le soir.
Quel plaisir de lui parler ce soir, le journaliste sportif Renaud Lavoie qui est avec nous. Salut Renaud.
Salut Yannick.
Je vais être très honnête avec toi, je m'attendais pas à te parler de sitôt compte tenu du fait que dans les derniers jours, ben, tu as eu des ennuis de santé. Fait que je te remercie et je me considère très chanceux d'avoir un 60 minutes en ta compagnie.
Ben, ça fait plaisir. Dis-toi que si physiquement, mentalement, je n'étais pas en mesure de le faire, évidemment qu'on ne se parlerait pas présentement, mais écoute... Les nouvelles, son état de santé n'aide pas d'être positive. Ma progression se fait vraiment d'une façon assez impressionnante selon les dires du médecin. Alors, j'écoute les recommandations, mais en même temps, la force revient. Puis, c'était le fun. C'est le fun de revoir ce goût de faire des choses, là, puis de continuer d'avoir du plaisir dans la vie.
Renaud Lavoie, tu évolues dans le monde du sport depuis déjà plusieurs années. Tu es un analyste, tu donnes ton opinion. On te voit passer sur les réseaux sociaux. On va se le dire, dans le sport, on est toutes mémères, on a toutes nos opinions, puis des fois, ça jase fort. Mais Renaud Lavoie, qui reçoit une vague d'amour unanime au Québec de la part de tes auditeurs, de tes téléspectateurs, des joueurs de hockey, de la Ligue nationale, des coachs. Tu t'attendais-tu à un jour, est-ce que tu as une belle vague d'amour comme ça qui fleurit de partout? Là?
Non. Comme mon ami Eric Engels m'a dit, lui qui travaille pour Sportsnet, il dit, c'est comme si tu assistais présentement à tes propres funérailles. Et je trouve que la comparaison est très juste. Tu sais comme moi que lorsque quelqu'un malheureusement quitte ce monde, souvent il y a des éloges qui s'ensuivent. Ben moi, j'ai le luxe, le bonheur d'écouter et d'entendre tous ces éloges à mon endroit, cette vague d'amour qui jamais je m'attendais à recevoir ça dans ma vie. D'ailleurs, je souhaite aux gens de la vivre, mais évidemment de demeurer en santé. Là. C'est unique, c'est spécial. C'est tu vois que il y a on touche beaucoup de gens, peu importe que ce soit les auditeurs, des téléspectateurs, les gens qu'on côtoie dans le monde du hockey. C'est sûr que de recevoir autant de messages d'amour de tout le monde, c'est hallucinant. Puis ça me fait aussi réaliser que lorsqu'il y a quelqu'un qui vit des moments qui sont difficiles, que ce soit dans notre famille, famille éloignée, des connaissances, de prendre le temps. De leur écrire puis de leur dire qu'on pense à eux, j'ai réalisé que ça donne une énergie incroyable, que ça fait oublier rapidement les problèmes qu'on peut avoir. Puis je veux dire, c'est le fun parce que ça tu regardes l'être humain des fois puis tu peux être découragé. Moi, je peux dire que je regarde l'être humain présentement puis je ne peux que le remercier.
Est-ce que tu étais familiarisé avec les symptômes d'AVC? Est-ce que tu en savais un peu sur ces symptômes-là, ce que les gens pouvaient ressentir au moment où ils étaient en train de faire un AVC?
Bien, écoute, je vais être très transparent avec toi. Il y a à peu près, je veux dire, 3-4 ans de ça. Dans un match entre les Canadiens et les Panthers, où je ne travaillais même pas pour ce match-là, pour TVA Sports, c'est dans le temps des fêtes. Je ne faisais que la couverture, si tu veux, médiatique de l'événement. J'ai fait une crise de panique. Je ne savais pas que c'était ça que je faisais, mais j'avais des problèmes avec ma poitrine. Et bon, quand je savais que je ne faisais pas une crise cardiaque, mais je savais qu'il y avait quelque chose d'un peu anormal qui était en train de se passer. Ensuite, en me dirigeant à Washington le lendemain, j'ai été à l'entraînement des Canadiens et j'ai éternué. Puis en éternuant, ça m'a donné un gros coup, là, comme si quelqu'un me donnait un coup de poing dans les côtes. Donc, je me suis penché un peu. Et il y a un des soigneurs des Canadiens qui m'a vu me pencher. Il s'est dirigé moi directement en me disant, Hey, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, Ah, j'ai simplement éternué. Il m'a regardé et m'a dit, je n'aime pas du tout, du tout, du tout ton positionnement que tu as pris. Quand quelqu'un se positionne de cette façon-là, le pencher un peu les mains sur les genoux, c'est qu'il y a d'autres choses qui se passent. Il dit, Je reviens. Et là, il est revenu avec une aspirine. Il a dit, Écoute, ça, c'est une aspirine. Si tu as encore comme ça des douleurs, je veux absolument que tu prennes ça et que tu m'appelles d'urgence. Finalement, les douleurs sont parties, le temps a passé un peu, mais effectivement, j'ai eu des problèmes, justement des crises de panique qui se sont peut-être accumulées. Les gens ne l'ont pas réalisé, là, mais il a fallu que je consulte un médecin, mais ça n'avait pas rapport, donc, les crises de panique avec, évidemment, des ACV, etc. Mais ça m'a quand même familiarisé avec justement la santé du cœur, santé cardiaque, les symptômes, etc., qui peuvent parfois être similaires à quelqu'un qui a justement des crises de panique. Bref.
Est-ce que, ça c'est une question peut-être un peu personnelle, mais tu vas comprendre que c'est au bénéfice de tout le monde. Est-ce qu'on refait sa liste de priorités quand on est victime de ce type de problématique de santé-là?
Ouais, c'est sûr que dans la vie, tu as besoin d'un équilibre. OK? Puis je suis convaincu que beaucoup de gens qui nous écoutent présentement et qui se disent qu'il manque d'équilibre dans leur vie. OK? On fait quoi? On l'écoute pas. On se dit qu'on est différent des autres, qu'on est supérieur, qu'on est. Que ça ne peut pas nous arriver. Okay? Donc, on n'écoute pas le fait justement qu'on est épuisé physiquement, mentalement, mais on continue de pousser. Puis le pire, Yannick, là, je lève la main, là, quand c'est le temps d'être vous coupable, là, je suis obligé de te plaider coupable. Il n'y a pas une autre façon de résumer ma chose. Moi, juste pour te dire comment ça allait mal pour moi, là, dans le sens que je savais que j'étais épuisé. Mais je prenais tellement de fierté de m'entraîner comme un malade épuisé, de travailler comme un malade épuisé. Ça veut dire que c'est un cercle vicieux. Tu prends de la fierté à être brûlé, mais de continuer de pousser la machine au maximum. Je veux dire de quoi, là, si tu as envie de me dire, Yannick, que je suis un peu fou, il n'y a aucun problème,
Mais en fait,
j'accepte tes propos.
tout le monde qui sont dans des milieux de performance où les gens doivent toujours, toujours performer, parce qu'il y a toujours des gens en arrière qui sont là pour pousser derrière toi, pour peut-être même te dépasser, vont comprendre ce que tu es en train de dire, Renaud. Ta carrière, tu l'as pas volée à personne, tu l'as bâtie, tu as travaillé extrêmement fort, c'est des heures et des heures sur le téléphone. C'est que des fois, les priorités, la conjointe, la mère, le père, les enfants, on met ça de côté au bénéfice de notre job parce qu'on veut continuer à amener du pain sur la table. Puis on travaille, puis on travaille, puis on travaille. Puis à un moment donné, bien, la machine t'envoie un signal, là, revois tes
Ah oui,
priorités.
c'est ça. Le signal, c'est écoute-moi bien, tu ne veux pas comprendre, là tu vas comprendre. Tu comprends? Puis c'est ça. Donc, c'est de retrouver cet équilibre-là. C'est sûr que les gens encore qui nous écoutent présentement, puis qui sont justement des gens qui de performance, qui aiment performer dans leur travail, etc., de leur dire du jour au lendemain, il va falloir que tu te calmes. Je pense pas que c'est aussi facile que ça. Dans le sens que l'équilibre doit être fait justement dans ton nombre d'heures travaillées, bon, ton entraînement, comment tu le fais, est-ce que c'est nécessaire de se défoncer à ce rythme-là? Il y a une chose, par contre, qui s'en va pas, Yannick, quand tu as un incident comme ça. C'est le désir de performer. Ton désir de performer, lui, il ne s'en va pas. Il est très présent, mais je pense qu'il faut aussi le contrôler. Et c'est ça qui va être mon objectif le plus important. Comment je vais faire pour contrôler, pour bâtir un horaire de travail pour moi qui va être beaucoup plus normal. Et ça va être ça le défi pour là. Évidemment, c'est les séries éliminatoires. Là, je peux pas retourner au travail à temps plein. Mais mon défi va quand même, pour la prochaine saison, de bâtir un horaire que je vais devoir respecter et où il va y avoir du temps, justement, pour respirer à l'intérieur de cet horaire-là. Ce qu'il n'y avait pas, c'est pas la faute de mon ou mes employeurs, là. Il n'y a personne qui m'a mis un fusil sur la tête pour c'est que je travaille beaucoup. C'est comme n'importe quel athlète peu importe le sport qu'il fait, qu'il soit individuel ou d'équipe, tu veux toujours t'améliorer, tu veux toujours faire partie de l'élite. Il n'y a pas un entraîneur qui va te mettre un fusil sur la tempe en disant qu'il faut que tu travailles 3-4 heures de plus que les autres après un entraînement ou un match. Souvent, c'est l'athlète lui-même qui se met ces défis-là pour trouver une façon d'être meilleur que celui qui lui pousse dans le dos ou encore de rattraper des gens qui sont devant lui.
Ouais, tu étais dans une situation particulière. Renaud Lavoie, tu es un insider, tu es un journaliste, tu fais pas partie de la famille du Canadien, là. Est-ce que tu as été touché par le fait qu'on t'a traité comme un membre de la famille assez rapidement quand on s'est aperçu
Ben
que tu avais
oui.
des difficultés?
Ah, écoute, et c'est encore incroyable parce que c'est ce qu'ils ont fait pour moi dès les premiers instants, là, évidemment, où je me sentais mal au Centre Bell, où là, évidemment, quand je rentre dans le Centre Bell, j'ai besoin d'aide là, après un entraînement. Donc, rapidement, tu sais, je connais Maxime Gauthier, qui est physiothérapeute chez les Canadiens. Je le connais de longue date. Puis là, je tentais de le rejoindre, etc. Puis finalement, j'ai contacté Chantal Maccabée, qui, elle, très, très rapidement, m'a mis en contact avec, justement, Maxime. Puis, écoute, c'était des moments qui étaient difficiles, OK, on va se le dire. Mais en même temps, ces gens-là m'ont pris en charge très, très rapidement. Daniel Chamas, qui était thérapeute qu'on voit dans les matchs de hockey derrière le banc, il y a une barbe pour ceux qui se posent la question. Il était là, m'a pris en charge. Puis les problèmes sont rapidement venus, étourdissement, etc. Mais au-delà de tout ça, c'était ma main gauche qui était très problématique. Donc, on m'a expliqué d'ailleurs aujourd'hui que ma main gauche était problématique parce que mon ACV était du côté droit. Donc, c'est l'impact que ça a. C'est de l'autre côté. Ça affecte l'autre côté, si tu veux, de ton corps. Là, rapidement, ces gens-là m'ont dit, OK, tu dois te rendre à l'hôpital. Puis écoute, à partir de ce moment-là, j'ai été traité comme si j'étais un joueur des Canadiens. Il n'y a pas une autre façon de dire, là. On a tout fait pour m'aider le plus rapidement possible. Scan de la tête, du cou. On a découvert donc qu'il y avait une déchirure dans une artère de mon cou.
C'est la carotide?
Puis
Est-ce que c'était la carotide?
je te dis ça tout de suite. Là. Je vais juste aller voir. Je te dirais que la réponse à cette question-là, c'est oui, mais les termes médicaux. Je ne les connais pas tous par cœur.
Ouais.
C'était, oui, la carotide, exactement. Donc, à partir de ce moment-là, ça donne le signal au caillou, si tu veux, de se rendre au cerveau. Alors, moi, pourquoi je m'en sors très, très bien aujourd'hui, c'est que j'ai pris une aspirine rapidement. Hein. J'ai demandé à Chantal une aspirine rapidement. Daniel m'en a donné une rapidement, transporté à l'hôpital avec Patrick Lalime, rapidement à l'hôpital général de Montréal. J'ai fait un autre ACV dans l'auto. Là, je savais clairement ce qui était en train de se passer avec moi parce que je n'étais plus capable de parler. Mais quand je suis rentré à l'hôpital, c'est ça. On s'est occupé de moi très, très rapidement. On m'a transféré plus tard dans la journée aux soins intensifs de l'Institut de neurologie de Montréal. Là aussi, on s'est occupé de moi. On a fait des MRI pour confirmer, si tu veux, les caillots de sang au cerveau, les ACV. Puis effectivement, dimanche matin ou samedi dans la journée, on m'a montré les deux taches blanches qu'il y avait à mon cerveau. Puis il n'y a pas façon d'expliquer pourquoi ça s'est bien passé pour moi. Un, c'est parce que rapidement, j'ai pris cette aspirine. Deux, rapidement, j'ai été à l'hôpital. C'est la clé du succès pour les gens qui nous écoutent. Vous sentez des symptômes, on ne se dit pas, on prend une aspirine, je vais me coucher, je vais me reposer, je vais voir comment je me sens. On appelle immédiatement le 911 parce que en faisant ça, vous limitez au maximum les séquelles. Moi, il n'y en a pas de séquelles. J'ai eu des petites séquelles, la difficulté à mâcher, ce réflexe donc d'avaler, etc., a été, si tu veux, l'épreuve, entre guillemets, la plus difficile que j'ai eue. Pas besoin de te dire que c'est pas une grosse épreuve par rapport à d'autres personnes. Et j'en suis extrêmement reconnaissant et chanceux d'être celui qui se retrouve, qui a pigé un mauvais numéro, mais qui n'a pas pigé le pire des mauvais numéros, disons.
Oui, puis tu sais, tu es en bonne santé. Moi, ce qui m'impressionne, c'est que les médecins t'ont dit, Renaud, tu es en forme, tu peux commencer à retravailler, mais avec un peu moins d'heures par semaine, je trouve ça quand même exceptionnel avec tout ce qui t'est arrivé, là.
Ouais, puis aujourd'hui encore, parce que tu sais comment dans la vie, les gens qui aiment s'entraîner, ben quand tu leur dis tu peux juste marcher, OK, tu vas le faire, ça va déjà être ça. Puis, tu sais, aujourd'hui, j'ai reçu le feu vert pour recommencer à courir. C'est pas pour faire un marathon, là,
Ouais.
mais quand même, recommencer à courir, c'est pour moi, c'est. Je peux dire que. Il y avait tout un sourire sur mes lèvres lorsque j'ai appris ça.
Ouais.
Ça fait partie de ma routine.
Renaud Lavoie, c'est un Québécois, c'est un gars qui, une fois de temps en temps, quand il doit aller à l'hôpital, il doit passer par l'urgence. Puis j'imagine que tu critiquais le système de santé comme moi, c'est-à-dire, Colin, c'est donc ben long à l'urgence. Mais on me dit qu'une fois que tu rentres dans le système de santé, là, il y a des gens qui sont là pour s'occuper de toi. C'est des gens bien avenants, des gens bienveillants, mais il faut rentrer dans le système de santé au
Oui,
Québec.
alors la réalité des problématiques du système de santé au Québec, je n'invente rien, c'est l'urgence. J'en ai parlé beaucoup même avec des gens qui se sont occupés de moi à l'hôpital général ou encore à l'Institut de neurologie, des gens extraordinaires. Et ils le savent, la problématique n'est pas les soins de santé, ce ne sont pas les soins de santé en tant que tels qui est la problématique, c'est vraiment l'accès. Les histoires d'horreur qu'on peut lire, malheureusement, des fois, de voir qu'il y a des gens qui meurent sur un lit d'hôpital, une civière, je devrais dire, à l'urgence. Et comment on peut accepter ça en tant que société? C'est pas, en passant, là, c'est pas deux par année, ça, hein? C'est des milliers de personnes à qui ça arrive. Alors, elle est là, la plus grande problématique, mais quand vous êtes à l'intérieur du système de santé, vous allez découvrir que c'est des gens d'une grande efficacité, d'une grande gentillesse, intelligence. Intelligence, évidemment, mais intelligence émotive aussi, là. C'est des gens qui s'occupent de vous, là, dans les hôpitaux, que ce soit les infirmières, les infirmiers, les préposés, les médecins. On ne peut que se lever et les applaudir présentement.
T'es ramassé au Centre Bell dans les derniers jours en tant que spectateur.
Ouais.
Ça devait être différent. Est-ce que tu regardais le match d'une autre façon que d'habitude quand t'es journaliste?
Non, je suis pas capable. À part si je suis avec des membres de ma famille, là,
Ouais.
où là, je vais relaxer un petit peu plus, là. Je vais passer du temps à leur parler. Mais dans ce cas-ci, non, j'avais mon calepin de notes, les deux matchs où j'y étais pour prendre justement des données par rapport à ce qui pourrait me servir éventuellement là, dans mon retour qui va avoir lieu normalement samedi, si tout va bien.
Ouais.
Donc, tu sais, de vivre ça, ben, tu peux pas sortir, ben, je peux pas aller au Centre Bell juste comme spectateur. En plus, mon médecin m'avait demandé de me concentrer là, sur ce qui se passait là, parce que c'est important pour lui de savoir comment j'allais réagir par rapport justement à la lumière, le bruit, mais aussi au niveau de concentration. Donc, il fallait que je fasse une espèce de simulation d'une journée de travail, c'est ça.
Puis en même temps, ça devait être assez... il devait avoir beaucoup d'émotions parce que là, les gens que tu croisais, ils en revenaient pas de te voir là parce qu'ils savaient que t'avais passé proche. Fait que là, ils disaient, écoute, c'est un mort-vivant qui arrive, là, tu sais. Qu'est-ce que tu fais ici, Renaud? Puis c'était ton retour, en fait, là.
Exact. J'ai essayé d'être le plus petit possible dans le sens que je voulais pas aller me donner en spectacle, là. J'avais donc ma casquette des Yankees sur le dos, sur la tête, excuse-moi. J'essayais de me faire petit. Je n'ai pas été voir mes collègues en haut sur la galerie de presse. Mais c'est ça. À un moment donné, ils m'ont présenté sur les ondes de TVA Sport. Là. Félix Séguin m'a vu, donc il a souligné ma présence. Je peux dire qu'à partir de ce moment-là, mon téléphone a explosé. Puis de lire et d'entendre les gens là, qui me disaient que ça les a touchés droit au cœur de me voir justement à l'écran. Ensuite, les Canadiens étant les Canadiens, ont décidé de me présenter aussi à l'écran géant. Donc là, je ne pouvais plus vraiment me cacher pour être honnête avec toi.
J'avais des chums qui étaient dans la place, puis on se demandait qu'est-ce qui se passait parce que ça les gens ont gueulé comme si c'était un but qui venait d'arriver dans le Centre Bell pour les Canadiens. Fait que là, ils t'ont vu sur l'écran, ils ont bien compris ce qui se passait.
Puis c'est une vague d'amour extraordinaire qui ne peut pas se comparer non plus. Puis si tu voulais faire un test pour mon cœur, savoir c'était quoi mon rythme cardiaque, si ça allait bien, là. Ça, c'était le vrai test. Là. Parce que c'est une chose, de retourner au Centre Bell, où je dois avouer qu'émotivement, quand j'ai été voir Chantal, Daniel et Maxime dans le corridor, pas loin du vestiaire des joueurs, c'était émotif pour moi d'être là, émouvant. Parce que je sais que j'étais dans un état lamentable à ce moment-là. D'y retourner, c'était tough. Mais là, après ça, de voir qu'il y avait une caméra qui était braquée sur moi puis qu'elle allait me présenter devant 21 000 spectateurs, de la patate, là. Elle a accéléré à un rythme, je me souviens pas, c'est quand la dernière fois qu'elle était à ce rythme-là, pour être honnête. Puis ensuite, en descendant, Martin Saint-Louis, qui m'a salué... devant mes collègues, à la fin de son point de presse, ça aussi, c'était extrêmement touchant. Puis de voir tous mes collègues venir me voir, il y en avait beaucoup qui avaient les larmes aux yeux. Les dames qui travaillent dans les ascenseurs, que je côtoie évidemment les jours de match, etc., là, qui pleuraient quand elles m'ont vu, là. C'est spécial. Tu sais, tu vois que tu touches les gens et que ces gens-là ont eu peur. C'est assez unique, pour être honnête avec toi, de vivre ces choses-là. Les joueurs du Canadien, par la suite, qui sont venus me saluer. Il y avait beaucoup qui étaient là, qui m'ont fait de l'accolade, demandé des nouvelles, peu importe. C'était très touchant. Puis dans le dernier match, ce que je te raconte, c'était dimanche. Dans le match de mardi, il y a Gary Bettman, Bill Daly qui sont venus me voir, qui tenaient à me saluer, me serrer la main. C'est quand même assez impressionnant et touchant de vivre ça dans une vie.
Ah, je comprends. Renaud Lavoie, est-ce que... les gens qui travaillent beaucoup vont comprendre ma question. Ceux qui ont un horaire un peu mieux que la nôtre, parce que moi, je me lève à 3 heures du matin, puis des fois, mes chiffres, ils se terminent quand même assez tard. Quand il y a des grosses périodes de rush comme ça, là toi, tu es dans une période de rush et le beat du Canadien, le Québec en entier vit au beat du Canadien de Montréal. L'humeur des Québécois aussi va avec les victoires ou les défaites du Canadien de Montréal actuellement. Naturellement, quand il arrive une affaire comme ça, tu penses à tes proches, tu penses à ta famille, tu dois te dire... Mais semble c'est pas le temps, là. J'ai plein d'affaires à faire encore. C'est quoi tes croyances? T'as-tu parlé à quelqu'un en disant, là, c'est pas le temps, là. Laisse-moi ici encore un peu.
Quand c'est arrivé?
Ouais.
De rester au Centre Bell?
Non, mais pas de rester au Centre Bell, mais de rester sur Terre encore un peu, parce que là...
Dans ce sens-là.
Il y a de la job encore à faire, là.
Écoute... C'est sûr que la chose la plus importante pour moi, c'est ma santé. Mais rapidement, Yannick, là, tout ce que tu me dis là ça s'est effacé rapidement. Parce que j'ai été pris en main de façon magistrale. Là. OK. On m'a dit tout de suite que ça allait se régler puis que ce qu'on travaillait, évidemment, pour pas qu'il y ait de séquelles. Donc, évidemment, on m'injectait beaucoup de je vais dire des solutés, là, lesquelles, je ne peux pas te dire, des médicaments, évidemment, pour pas qu'il y ait des séquelles. Rapidement, ce bout-là, mais il a été effacé dans ma tête. Rapidement, ça, je te parle quand j'étais à l'hôpital général, là, mais rapidement, là, c'est l'autre côté là, où là, je pensais aux gens de ma famille, famille immédiate, évidemment, famille qui est pour moi aussi TVA Sport, qui est une superbe famille. Puis là, là, ça me faisait extrêmement mal parce que là, moi, je les laissais tomber, ces gens-là. Tu comprends? Je laissais tomber ma famille, je laissais tomber mes amis, je laissais tomber mes chums, TVA Sport, tout le monde qui travaille dans le camion de diffusion, les filles qui sont là, les gars, tous les gars avec qui je travaille, Pat Lalime, Félix Séguin, Elisabeth Rancourt, Antoine Roussel, Maxime Talbot, Maxime Lapierre, excuse-moi, mon boss, Martin Larocque, LP Neveu. Dans ma tête, je laissais tomber ces gens-là et ça, c'est comme si tu me mettais des couteaux dans le cœur. Et ça me faisait vraiment, vraiment mal, pour être honnête avec toi.
Alors que probablement que ces gens-là qui ont vu ton histoire, qui t'ont vu aller, qui te connaissent, qui t'aiment, qui t'apprécient, se sont dit dans leur tête, on prendra les bouchées doubles s'il faut, mais Renaud doit se reposer.
C'est ça. Mais tu sais, dans la vie, là, puis quand on... Je dis ça, il y a bien des gens qui pensent la même chose. Tu vas être là pour aider des gens qui ont des problèmes. Mais puis où tu vas être là pour un coéquipier pour l'aider dans X, Y, Z ou ta famille. Tu veux tout le temps être là au maximum pour les aider. Mais moi, je suis un peu celui qui ne demande jamais de l'aide, tu comprends, puis qui n'en veut pas surtout. Donc, tu es obligé d'être celui qui en a, finalement. C'est quand c'est pas dans ton ADN, c'est comme... C'est pas le fun. Ben, malgré que c'est le fun d'avoir l'aide, mais ça a été très difficile, je dirais, d'accepter tout ça. Ouais. Bref. Mais là, je l'ai accepté, là, évidemment, parce que j'ai pas le choix. Mais encore là, tu sais, de savoir que... Présentement, je ne peux pas voyager, des choses comme ça. C'est un petit peu plus difficile. Là. Mais bon, ça va venir plus tôt que tard, j'en suis convaincu. Comme je te disais un peu plus tôt, les nouvelles sont vraiment bonnes. Je peux commencer à prendre l'avion, etc. C'est pas une problématique. La problématique, c'est de trouver une compagnie d'assurance, évidemment, qui va accepter aux États-Unis de couvrir quelqu'un qui vient de faire 2 ACV. Là. Tu comprends?
Je comprends très bien. Mais il y a des belles choses à retenir. Il y a une belle philosophie de vie à retenir de tout ce que tu me mentionnes. Je trouve ça le fun qu'on se jase ce soir. Renaud Lavoie, moi, je t'ai connu déjà journaliste, insider. T'es arrivé comment dans la Ligue nationale de hockey? T'es arrivé comment dans le sport?
Alors, moi, j'ai fait mes débuts à Radio-Canada, à Ottawa, à la radio de Radio-Canada, en 1993, puis si tu te souviens bien, en 1992-93, il y a une équipe qui s'appelle les Sénateurs d'Ottawa qui a fait ses débuts.
Ouais.
Au départ, je m'en allais pas nécessairement dans le monde du sport. J'ai fait beaucoup de politique, politique municipale, provinciale, que ce soit ontarienne ou québécoise, là. Et un peu de parlement aussi, parlementaire à Ottawa. Puis rapidement, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de gamics à travers tous ces gens-là que je côtoyais déjà par la bande là, avec ma famille. Puis quand tu tombes dans les magouilles, puis comment ça fonctionne, comment on est gouverné par les politiciens qui, malheureusement, sont ceux qui s'occupent de nous présentement, j'insiste sur le terme « malheureusement », tu t'aperçois qu'ils sont pas là nécessairement pour les bonnes raisons. Alors, je me suis dit que, c'est-tu vraiment ça que je veux faire dans la vie, moi, passer mon temps à courir après du monde qui travaille dans quel intérêt réel? Alors, je me suis rapidement dit que ça m'intéressait pas vraiment. J'ai eu la chance, à partir de ce moment-là, tu sais, tranquillement, pas vite, de dire à mes patrons, hey, moi, là, j'aimerais pas mal plus faire le hockey, les Sénateurs d'Ottawa, les Olympiques de Hull, toutes ces choses-là. Puis ils ont dit, OK, on va commencer à te laisser faire ça. Remplacer un peu à la télévision Diane Sauvé qui faisait les nouvelles du sport à Radio-Canada, Ottawa, aux nouvelles régionales. Puis, tranquillement, pas vite, s'insérer dans la soirée du hockey radio, parce que pour les plus vieux, ils s'en souviennent, pour les plus jeunes, non. Mais la soirée du hockey radio, les matchs des Canadiens, tous les matchs étaient diffusés à la radio de Radio-Canada, d'un océan à l'autre, en passant, hein.
Ouais.
Vous étiez partout au Canada, vous pouviez entendre les matchs des Canadiens à la radio.
Coast to coast.
Et coast to coast, exactement. Puis il y avait donc des émissions de sport à la radio de Radio-Canada, de hockey, des avant-matchs, etc., où, tu sais, j'y participais. Puis c'est comme ça qu'on m'a ouvert la porte. Il y a un jour, il a dénommé Mario Tremblay, pas le Mario Tremblay qu'on a connu chez les Canadiens, mais qui était journaliste à CHOT dans l'Outaouais, qui est venu me voir, puis il m'a dit, « Hey, Renaud, RDS se cherche quelqu'un, un correspondant pour couvrir les activités bon, de ce qui se passe dans la région d'Ottawa. » Il m'a dit, « Est-ce que tu connais quelqu'un? » On était à un match des Olympiques de Hull. J'ai dit, « Non, je ne connais pas personne. » Le lendemain, je me dirige, je travaillais le matin, je faisais les nouvelles le matin à CBOF, donc à la radio de Radio-Canada. Et la première page du Journal de Montréal, la radio de Radio-Canada abandonne le hockey. Là, je suis comme, ah, oh, ben, tabarouette. Là, dans ma tête, j'ai plus de job, là. Ma carrière est finie, là. On est en 95, j'ai 96, j'ai 22, 23 ans. Puis là, un peu découragé ce matin-là. Puis là, je repense à mon ami Mario Tremblay. Là, je l'ai appelé Mario Tremblay la journée même. J'ai dit, hey, Mario, j'ai trouvé ton gars. Il dit, ah oui, c'est qui? J'ai dit, c'est moi. Il dit, vraiment? Je dis, oui, je donne-moi le numéro de Charles Perrault, qui travaille encore à RDS, d'ailleurs, on le salue. Puis, j'ai dit, je vais appeler Charles. Comme de fait, le lundi, j'ai appelé Charles. Et bien, il m'a dit, écoute, parfait, viens donc me rencontrer à Montréal. On va se connaître un peu, puis je vais te présenter aux gens. Puis, ça a été ça. Ça a été le début de mon aventure avec RDS. Alors, en 1999, Charles est venu me voir à un moment donné, puis il m'a dit, écoute, est-ce que ça te tente de venir dans Montréal couvrir les Canadiens? Bon, à ce moment-là, je faisais l'analyse des matchs des Sénateurs à la radio. Et écoute, ça a été des beaux moments pour moi. Puis l'Outaouais, c'est ma région natale. J'ai adoré tous mes moments dans l'Outaouais, etc. Puis, pour être honnête avec toi, je voulais pas quitter nécessairement l'Outaouais. Mais finalement, j'ai comme pas eu le choix de le faire parce qu'on a décidé de me mettre à la porte à un moment donné. J'ai été congédié une fois. Puis finalement, bien, au mois de juin de cette année-là, de 99, j'ai appelé mon ami Charles Perrault. J'ai dit, écoute, Charles, j'ai ton gars, puis ton gars, c'est moi. Puis je veux revenir, ton offre du mois de juin, là, ben, du mois de, je sais pas, mars, je peux la prendre si elle existe encore. Puis elle m'a dit, ben oui, elle existe encore, c'est ce qu'il m'a dit. Donc, pas de problème. Je me suis dirigé vers Montréal pour commencer ma carrière à la couverture des Canadiens de Montréal dès le mois de ben, juin 99, si tu veux, là, mais le camp d'entraînement a évidemment commencé au mois de septembre.
Est-ce que ça a été difficile de faire ta place dans le monde du sport à Montréal? Parce que c'est un monde, tu sais, les journalistes sportifs, c'est des égos, là. C'est des égos qui sont parfois démesurés à certains égards. Quand tu arrives, tu es le nouveau de la place, tu es encore très jeune. Est-ce que ça a été difficile de t'imposer?
Ça a été extrêmement difficile parce qu'il y avait beaucoup de bullying à l'époque, de la façon dont ces gens-là se comportaient, travaillaient. Des gens qui ne sont plus évidemment dans le monde médiatique aujourd'hui, là, pas besoin de te le dire, là. Donc, c'était un monde. Le problème n'était pas les joueurs, n'était pas l'équipe, absolument pas, mais c'était beaucoup plus la compétition chez les journalistes qui était, moi, je pourrais la qualifier aujourd'hui d'inacceptable, là, dans le sens que
Ah oui.
cette façon de se comporter avec des jeunes qui arrivent dans le milieu, c'est pas un très bel exemple. Mais, tu sais, juste te donner un exemple, après la première année, moi, j'arrêtais, là, celui qui m'a interdit d'arrêter, il s'appelle Paul Buisson, qui n'est plus des nôtres aujourd'hui, là. Tu m'as regardé et m'a dit hey, « Toi, mon petit Chris, ça ne va pas nulle part. Là. Ça ne démissionne pas. » Parce que j'étais rendu au point de démissionner tellement c'était invivable. Il n'y a pas une autre façon de le dire. Mais tranquillement, pas vite, tu fais ta place par la suite. Puis tu gagnes le respect, j'imagine, des gens qui te côtoient. Tranquillement, pas vite aussi, ces bullies-là, ben sortent du paysage. Puis ça fait en sorte que ça devient beaucoup plus sain, si tu veux. T'sais, moi, je suis quand même un des plus vieux avec Luc Gélina à faire la couverture des Canadiens d'une façon quotidienne. Je pense que c'est là qu'on est posé la question aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui rentrent, là, on les accueille, là, tu comprends? Là, on les accueille pas, je dis pas, avec des gâteaux, puis... C'est pas ça que je suis en train de dire, là. Mais c'est tes accueils avec un sourire, il y a une belle camaraderie, il n'y a pas de bullying, des gens vont manger ensemble, ceux qui veulent le faire sur la route, tout le monde s'amuse. On peut se moquer des autres, mais avec un petit sourire en coin. C'est fait bon enfant toujours, tu sais, c'est fait de la belle façon, de la bonne façon. Puis Si j'en prends une certaine fierté, je prends une certaine fierté de ça parce que je suis un des plus vieux. De voir que tout se passe à la bonne franquette, c'est parce que les gens qui y sont des gens de qualité aussi là, chez les collègues. Là. C'est des gens de très grande qualité qui font en sorte que l'ambiance de travail est excellente. Et ça, ceux qui décide, je ne sais pas qu'il n'y en a pas, là, mais ceux qui ont peut-être essayé de déroger de ce côté-là, commençant à se moquer un peu, se moquant volontairement, je devrais dire, là, d'un autre reporter ou de peu importe qui tourne dans l'entourage de l'équipe, tu peux les remettre à l'ordre assez rapidement en disant « Nous autres, pas comme ça qu'on fonctionne. » Puis ça règle les problèmes souvent très, très rapidement. Puis ça fait en sorte que travailler dans l'entourage des Canadiens, je pense que c'est extrêmement agréable et très valorisant.
Ouais. Les décennies se sont accumulées au fil du temps. Moi, j'ai connu un peu les années 80, les années 90. J'écoutais la radio où on parlait de sport. De mon côté, c'était plus du côté de Québec. Donc, j'écoutais parler des Nordiques. Et là, quand les méchants Canadiens débarquaient à Québec, ça brassait. Ah, oui. Puis le journalisme aussi, il était concentré à sortir, ce qui se passait dans l'entourage du club. Mais souvent, c'était des scandales. T'sais, il aimait bien ça, sortir des scandales. On dirait que depuis les années 2000, ça n'existe plus, ces fameux scandales-là. C'est-tu une nouvelle façon de travailler, Renaud Lavoie? C'est-à-dire, on va se concentrer sur le sport, puis ce qui est en dehors du sport, ce qui touche les gars au niveau personnel, ça, on n'embarque plus là-dedans.
Moi, je te dirais que la société a beaucoup changé. Quand je parle de la société, là, ça touche l'athlète aussi. Là. Pense-y, là. Il y en a eu des scandales qui ont touché le point de vue personnel. Je pense, entre autres, si tu veux, à une histoire où il y a des joueurs des Canadiens qui avaient été arrêtés à Tampa parce que...
Une sacoche.
On avait fouillé dans la sacoche d'une fille. Exact. Bon. Tu sais. Mais maintenant, là, tu sais, à l'époque, là, ça, c'est une époque où les téléphones cellulaires, ça commençait, là. Tu sais, les flip phones qui prenaient des photos, là.
Ouais.
Ça commençait tranquillement, pas vite. Mais maintenant, là, à l'époque, là, jusqu'à cette époque-là des flip-phones, là. Les joueurs de hockey, là, ils se tenaient en gang et ils avaient un plaisir incroyable. Tu sais, je me tenais avec eux autres, là, c'était le party total. Là. Pas party drogue, là. Il n'y avait pas de drogue, c'est pour ça que je te le dis. Mais on avait du fun. Il y avait du beau monde autour de nous autres, tu comprends? Tout le monde tripait. Ça se faisait dans le respect, mais ça tripait. Qu'est-ce que je te dis? Ça vivait, tiens. C'est pas une question de triper, c'est une question de vivre. On vivait. Aujourd'hui, là, avec les téléphones cellulaires, là, je regarde les joueurs des Canadiens, puis des fois, là, je me sens mal pour eux. OK? Parce que je me dis, ils savent pas c'est quoi, eux, avoir du fun, comme nous autres, on a eu. Tu comprends? Pourquoi? Parce que je me rappelle de Nathan Beaulieu, à un moment donné. Nathan jouait pour les Canadiens. C'est sa fête. Le samedi soir, le Canadien gagne. Le dimanche, c'est congé. Il sort dans un bar. Il est avec sa blonde, il est avec ses coéquipiers. Puis qu'est-ce que tu veux, je te dis, il sort d'un match de hockey là, où tu as perdu beaucoup, beaucoup d'eau. Là. Probablement, tu ne t'es pas réhydraté comme il faut. Là, tu commences à prendre de l'alcool. Je peux t'annoncer qu'à 1h du matin, là, ça se peut que tu commences à être cocktail avancé. Là. Tu comprends? Mais là, il y a des gens qui commencent à filmer. OK? Puis, évidemment qu'ils mettent ça sur certains sites Internet. Qu'est-ce que tu penses que c'est l'impact de ça? L'impact de ça, c'est que les joueurs, ils ont fait, ils sont devenus comme des escargots. Ils rentrent dans leur cini.
Renaud, est-ce que tu es
tout? Que je sors. Oui. Est-ce que tu m'entends?
Oui, c'est revenu, oui.
Oui, OK, parfait. Ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois, mettons, que ces joueurs-là sortent, là, bien, c'est très difficile pour des caméras devant eux. Moi, je parle souvent avec un Mitch qui s'occupe de la sécurité des joueurs chez les Canadiens. Mm-hmm. Tu sais, pense-y, là. Il y a des joueurs du Canadien là, qui se font suivre jusqu'à leur condo, jusqu'à leur maison. Penses-tu qu'on a du fun, ce monde-là? Pas parce que tu gagnes 4-5 millions de dollars par année, là, qu'on devrait accepter une chose comme ça. C'est inacceptable. Alors, c'est des gens qui se replient sur eux-mêmes, qui se referment, qui font des parties d'équipe. On est tout le temps ensemble, etc., mais ça sera jamais comme ça a déjà été, là. Ça c'est certain, à cause des réseaux sociaux et des fameux téléphones cellulaires.
Est-ce que c'est encore facile d'avoir leur confiance, que ce soit pour des directeurs généraux dans la Ligue nationale de hockey, des joueurs de hockey, des ex-joueurs de hockey à la retraite, des agents de joueurs? Est-ce que c'est encore facile d'établir un lien de confiance?
Oui. Tu peux établir le lien de confiance, c'est très, très simple. Il suffit d'être une bonne personne, puis tu vas établir des liens très, très facilement. Ce qui est plus difficile présentement, pour un peu tout le monde dans mon métier là, qui veulent sortir des scoops, c'est que, mettons là, que j'ai une information, OK, qui est un scoop, qui est quand même une information importante. Quand tu poses la question à la personne qui te la donne, est-ce que je peux le sortir? Souvent, la réponse, c'est non, parce qu'ils veulent que ce soit leurs réseaux sociaux qui la sortent. Tu comprends? C'est comme si maintenant, chaque équipe de la Ligue nationale avait son propre bulletin, pas bulletin de nouvelles, mais poste de télé, tu comprends?
Oui.
Puis là, ben, toi, tu ne travailles pas pour eux autres. Ça veut dire que là, si toi, tu sors une nouvelle, que ce n'est pas eux autres qui la sortent, ça crée à l'interne de très, très gros problèmes. Tu comprends? Ça fait en sorte qu'à l'interne, il y a du monde qui sont fâchés. Comment ça que c'est Renaud Lavoie qui a sorti cette nouvelle-là, alors que ça aurait dû sortir par nous et non pas par lui? Ça, c'est une très grosse problématique pour bien des gens dans mon métier. C'est, tu ne peux pas commencer à dire, tu as l'information, puis il y a quelqu'un qui dit, Renaud, je ne veux pas que tu sortes cette nouvelle-là. Puis tu dis, de la merde, j'en sors pareil. Là, tu vas commencer à te brûler, puis là, tu vas probablement avoir des problèmes sans aucun doute.
Tu vas te mettre du monde à dos. Je veux te poser des questions. Actuellement, chez le Canadien est en série, mais il y a des joueurs qui ne jouent pas du tout. Patrick Laine ne joue pas. Montembeault, qui était gardien numéro 1, ne joue pas. Les gars pratiquent. Les gars semblent garder quand même le sourire. Toi, de ton point de vue à toi, ces gars-là, sont-tu quand même heureux du sort qu'on leur réserve actuellement en raison peut-être de leur mauvaise performance? Là? Mais Patrick Laine, il gagne plusieurs millions de dollars. Il doit commencer à trouver le temps long en sacrifice.
Dans le cas de Patrick Laine, pour être honnête, je pense que ça fait son affaire là, dans le sens que... Il savait qu'il n'allait pas jouer, puis admettons qu'on lui avait donné quelques matchs à la fin de la saison, est-ce qu'il aurait bien paru? Je pense que non. Alors lui, je pense que dans sa tête, il aime mieux être un bon coéquipier et s'assurer que les directeurs généraux ont un souvenir de lui d'il y a deux saisons que celui de cette saison. Tu comprends ce que je veux dire?
Je comprends très bien.
C'est exact. Pour essayer de mêler les cartes et faire à croire qu'il est encore un joueur qui peut avoir un impact. Dans le cas de mon ami Samuel Montembeault, Sam, là, c'est le coéquipier ultime, comme Brendan Gallagher dans un sens. Mais ils ont un orgueil aussi, tu comprends? Puis cet orgueil-là, il va toujours rester en place, il sera toujours présent. C'est important d'être orgueilleux, etc. Ceci étant dit, je pense que C'est des joueurs qui ont probablement que leur avenir est ailleurs qu'à Montréal. Ils le savent. Mais quand tu es dans une poussée en séries éliminatoires comme ça, tu ne peux pas être une distraction. Tu peux pas arriver devant un journaliste et dire ouvre ton calepin de notes ou ton micro, porte ta caméra puis commencer à déblatérer sur l'organisation. Premièrement, tu vas mal paraître. Puis deuxièmement, les équipes qui pourraient peut-être faire un jour ton acquisition ne voudront pas le faire à cause justement peut-être de cette attitude qui pourrait faire peur. Alors, ces gens-là qui ne parlent pas, qui continuent d'être présents pour encourager leurs coéquipiers, je pense que ces gens-là, gagnent beaucoup présentement à ne pas parler et à être des bonnes personnes.
Intéressant. Est-ce que Renaud Lavoie avait vu la montée de Dobesch, qui est véritablement ces temps-ci le dieu de Montréal, là? Est-ce que tu avais vu cette montée-là arriver?
Dans le cas de Jacob Dobesch, moi, je l'ai vu arriver avec les Canadiens, le camp de développement, camp des recrues, il y a quelques années, là. Lui, il évoluait au niveau collégial à Ohio State. Et écoute, quand je le voyais arriver avec ses pads d'Ohio State, là, je me disais, mais qu'est-ce que c'est ça? Et je me disais, il pourra pas jamais jouer dans la nationale.
Ben, il était tout
Et après
croche, là. Moi,
ça.
je me souviens des premières images que j'ai vues de lui, puis j'ai des
Ah oui.
chums dans mon entourage qui sont des gardiens de but qui ont dit, mais il est tout croche, ce gars-là, qu'est-ce qu'il fait là? Finalement, ça.
Exact. Ils l'ont bâti, tu sais. C'est parce que ce que tu prends, c'est est-ce que tu as des bons pieds? Est-ce que tu as des bonnes jambes? Puis il y avait quand même des qualités importantes. Moi, c'est les premiers moments que j'ai réalisé que les Canadiens avaient devant eux un joyau, là, c'est littéralement avec le Rocket de Laval. J'aime aussi aller voir le Rocket. Puis quand je voyais les matchs du Rocket et avec lui devant le filet, là, je me disais, mettons, après 2, 3 mois qu'il était là, je me disais, aïe, aïe, ce gars-là est tout simplement spectaculaire. J'étais impressionné par ce qu'il faisait. Il sauvait des matchs. Avec les Canadiens de Montréal et on a vu un peu la même chose, sauf que c'est un gars qui bougeait beaucoup devant son filet. Et donc, de trouver une façon qu'il bouge moins, de le calmer, si tu veux. Comment tu prends quelqu'un qui est aussi à ses émotions?
Ouais. Renaud, je suis en train de te perdre complètement. Je vais
Est-ce que
juste.
tu m'entends, là?
Ouais, je suis en train de te perdre complètement. Je vais juste faire une courte pause, puis on revient tout de suite avec toi. Ça te va?
Oui.
Je vous rappelle qu'on a le plaisir ce
Oui.
soir d'être avec Renaud Lavoie, journaliste, insider pour TVA Sport. Renaud qui revient au boulot samedi soir. Donc, on a hâte de le voir déjà samedi, mais on a le plaisir de l'avoir ce soir. Je vais le garder encore quelques minutes tout de suite après la pause. On revient.
Marceau, le soir. Le soir. Marceau, le matin.
On va aller rejoindre la gauche de Max Larouche, le meilleur chroniqueur sportif au Québec, Charles Milliard. Bonjour, M. Milliard, comment allez-vous?
J'attendais plein d'introductions, mais pas celle-là.
Et pour le troisième lien, qu'est-ce qu'on fait avec ça, M. Milliard? Mme Fréchette veut un troisième lien, mais un troisième lien payant.
Madame Fréchette a mentionné une option que j'ai mentionnée avant elle, c'est-à-dire que moi, je suis ouvert à un partenariat public-privé, effectivement, pour le troisième lien. Donc, si les Québécois nous font confiance, moi, je vais m'asseoir avec le secteur privé et voir s'il y a des possibilités de faire ça, parce que je crois à la boucle périphérique dans la région de Québec. Ça fait 5-6 fois que je viens ici, puis je vous dis la même chose.
Vous dites toujours la même chose.
Voilà.
C'est tannant, on peut pas vous challenger.
Bon.
Marceau, le matin, en semaine, 6h. Durant toute la longue fin de semaine, Boulevard 102.1 vous tourne les meilleurs covers par les bandes que vous aimez. Du Metallica par Weezer? Ben oui! David Bowie par My Chemical Romance? Le grand classique de Queen par Panic at the Disco? Sans compter les covers de Bob Dylan, CCR, Elton John, Genesis, tout ça repris avec l'ADN Boulevard.
ça s'enligne pour être un gros week-end de fun, de bonnes anecdotes, puis surtout de grosses tounes. Le spécial Cover, toute la fin de semaine, à Boulevard 102.1. Présenté par Climatisation Paquette, distributeur des produits Hitachi. Climatisation Paquette vous offre le meilleur service en 24 heures avec les produits japonais Hitachi, exceptionnellement performants.
Si vous êtes concerné par la perte de cheveux, planifiez votre consultation sans frais chez Viva et obtenez une carte cadeau de 125 $. Pour en profiter, direction cliniqueviva.com.
Avec le prix de l'essence qui augmente, c'est le temps de passer à l'électrique avec Kia Lévis. Il n'y a jamais eu un meilleur moment pour se procurer le Kia Niro EV Wind. En incluant le rabais Fidélité, la remise gouvernementale et le rabais Kia jusqu'à 5 000 $, la Niro EV vous est offerte en location pour 60 mois à partir de seulement 95 $ par semaine. Il n'y a aucun acompte à verser. Passez vite chez Kia Lévis pour en faire l'essai. Kia Lévis. Sur approbation du crédit, 16 000 km par année.
Pour ne pas vous planter cet été et voir votre cours sous son plus beau jour, Jardin Amel. Ne tournez pas autour du pot. Le plus grand choix d'arbres, arbustes, fleurs annuelles et vivaces à Québec. Jardin Amel, votre jardinier complice. 6029 Boulevard Amel. Ouvert ce lundi de la fête des Patriotes.
Du 14 au 18 mai, vivez la méga porte ouverte chez Escalvr Beaumont. 5 jours pour profiter de rabais allant jusqu'à 20 000 $ sur une grande sélection de VR neufs et usagés. Roulottes, tentes roulottes, fifth wheel, boîte campeur et motorisés. Il y en a pour tous les styles et tous les budgets. Financement disponible à partir de 5,99% ou aucun paiement avant septembre 2026. Sur place, jeux gonflables, tirage d'un scooter électrique de 1 500 $ et food truck Mellows le samedi. Escalvr Beaumont, 12 rue de la Chute à Beaumont.
Le chantier est en arrêt. Les employés ont besoin de toilettes. Les opérations ralentissent. La pression est à son maximum. Ça devient critique. Appel de renfort! Les voilà, Salivac! Les camions arrivent. Positionnement parfait. C'est parti. On livre. On installe. On pompe. Toilettes prêtes. Pompage en action. Le chantier repart.
Salivac, Salivac, Salivac.
Quel revirement!
Salivac, Salivac, Salivac.
Inventaire, service, qualité. Quand ça compte vraiment, on est là.
Salivac!
Déjà au volant d'une Volkswagen? C'est le moment d'en profiter. Obtenez 1% de rabais sur votre prochaine location chez Laval Volkswagen. Nouveau modèle, nouvelle techno, même confiance, à meilleur prix. Passez nous voir dès aujourd'hui. Laval Volkswagen, sans flafla depuis 1968.
Pour reprendre tes activités extérieures avec de l'énergie, Planète Nutrition t'offre 20% de rabais sur tous les suppléments jusqu'au 18 mai. Ce printemps, retrouve le plaisir de bouger avec Planète Nutrition. Planète Nutrition au 670 rue Bouvier ou au planètenutrition.ca.
La Fondation du CHU de Québec vous invite à relever le défi Kilimanjaro à Québec.
Mettez vos jambes à profit le samedi 13 juin.
En équipe, gravissez un total de 60 fois les escaliers du parc de la Chute Montmorency. Contribuer, c'est offrir des approches innovantes qui transforme la vie des patients du CHU de Québec, Université Laval. Êtes-vous prêt à gravir l'équivalent de la célèbre montagne africaine? Inscription au fondationduchutequebec.org.
Toyota, c'est plus de 25 ans d'expertise en véhicules électrifiés. Profitez-en avec la Prius hybride branchable, une autonomie électrique améliorée de 50 % et jusqu'à 962 km d'autonomie combinée avec une charge complète et un plein d'essence. En plus, vous profitez d'une conduite dynamique propulsée par 220 chevaux. Les clients admissibles peuvent recevoir jusqu'à 8 000 $ de rabais gouvernementaux et incitatifs clients pendant la vente étiquette rouge. Mais faites vite, la vente se termine bientôt. Visitez htmatoyota.ca ou votre concessionnaire Toyota du Québec pour toutes les conditions.
C'est pas pour rien qu'ABBA, c'est le choix du consommateur depuis plusieurs années. Nos estimations sont gratuites, nos interventions sont rapides. Chez ABBA, on vend du résultat. Il y a plus de 1 000 avis en ligne qui prouvent que notre solution, ben, elle fonctionne. ABBAExtermination.ca ou appelez-nous maintenant au 666-6667. ABBA, une solution définitive.
Chez Vélo de la Côte, découvrez le Norco Seine élu vélo électrique numéro 1 par le magazine Protégez-vous en 2026. Confort, style et performance. Redécouvrez la liberté de circuler en ville sans stress et sans compromis. Disponible chez Vélo de la Côte.
Des bons VUS, il y en a plein. Mais il y en a un qui est juste mieux. Comme l'Impreza 2026 de Subaru en location à partir de 92 $ par semaine. Des bons concessionnaires dans le marché, ben, il y en a plein. Mais tant qu'à payer le même prix, pourquoi pas le prendre chez le concessionnaire qui est juste mieux? Ben ça, c'est Option Subaru. Option Subaru, c'est pareil comme ailleurs, mais mieux.
Ta meilleure option, c'est Option Subaru.
Boulevard 102.1.
100% parlé en semaine. Avec les meilleures émissions d'actualité à Québec. Leclerc Communication, le radiodiffuseur numéro 1 à Québec.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir. Le soir.
On a le plaisir d'être en compagnie ce soir de Renaud Lavoie, qui est journaliste et insider pour TVA Sport. Renaud Lavoie, c'est un plaisir de te parler ce soir. Merci d'être là. On a un peu de difficulté là, dans la retransmission parce que tu es sur la route présentement, mais on va tenter de finir l'émission. Merci d'être là, Renaud. C'est très gentil de ta part.
Hey, Yannick.
Donc, Dobesch, c'est pas une surprise pour toi depuis que tu l'as vu évoluer avec le Rocket.
Hey. C'est, ce qui est une surprise dans le cas de Dobesch, c'est que, tu sais, un gars qui est aussi émotif, là, comment il fait pour soir après soir être avec autant d'émotion pour se présenter devant le filet quand en plus les entraîneurs des gardiens lui disent faut que tu trouves une façon de te calmer devant le filet. Mais avec les années, il a été capable de faire.
Ouais.
Je te dirais particulièrement cette saison, c'est une nette amélioration de ce côté-là. Et là, maintenant, il est en train de se transformer comme un des meilleurs gardiens de la Ligue nationale. Il n'y a pas de doute dans mon esprit. Ce qu'il est en train de faire, c'est exceptionnel. Il est grand, il est gros. C'est un très bon coéquipier. Il ne se prend pas trop au sérieux. Mais ce qu'il prend au sérieux, c'est sa façon de jouer. Puis je pense qu'on va en entendre parler longtemps de Jacob Dobesch. Mais oui, quand on est revenu de la pause olympique, je voyais justement comment se dessinait le scénario chez les Canadiens avec les gardiens. Puis très clairement dans ma tête, on avait identifié Jacob Dobesch comme le gardien numéro 1. Puis depuis ce temps-là, on lui a jamais enlevé, si tu veux, ce titre chez le Canadien.
Carey Price était sur la fin, puis on entendait que Jacob Fowler s'en vient. Jacob Fowler, c'est le prochain. Dobesch est arrivé, puis il a changé les cartes, du moins pour un certain temps. Puis j'espère qu'il sera avec nous pendant plusieurs années. Tes prédictions pour la série qui est égale actuellement 2-2, moi je trippe. On en parlait tantôt. Le beat actuel du Québec, là, ça va avec le beat du Canadien au rythme des victoires. C'est de toute beauté. Montréal, on fait des diffusions à l'intérieur du Centre Bell quand l'équipe est à l'extérieur. Et maintenant à Québec, ce soir et samedi, on rediffuse les matchs du Canadien par TVA Sport directement dans l'amphithéâtre à Québec. Et je trouve ça de toute beauté. C'est le fun. Tes prédictions pour le match de ce soir? Puis tiens, allons jusqu'à samedi.
Ben, moi, je pense que le Canadien va régler ça en 6. Écoute, même qu'après la défaite, la première défaite, je me suis dit que le Canadien avait de très bonnes chances de gagner ça en 5. Mais bon, il y a eu le match de mardi où les choses n'ont pas bien tourné pour les Canadiens. Puis ce sont des choses qui arrivent. Quand on y pense, les Canadiens ont battu le Lightning de Tampa Bay dans le 7e match avec seulement 9 lancés. Pensez-vous du côté du Lightning, on pense qu'on méritait une défaite ou non? Alors, le hockey, des fois, c'est un peu ça, un peu beaucoup. Mais je pense que c'est un groupe qui est allergique aux défaites présentement. Donc oui, je m'attends à ce qu'on reprenne le chemin de la victoire rapidement.
All right. Est-ce que Cole Caulfield va sortir plus fort dans les deux prochains matchs?
Ben moi, je pense que c'est déjà commencé avec Cole. Hein? Je le regarde jouer. Écoute, c'est un Cole Caulfield, là, pour les gens qui se posent la question, quand est-ce qu'on peut remarquer quand il se sent bien et il est bon? Regardez-le sautiller sur la glace. Ses premiers coups de patin, là, c'est comme s'il sautillait. C'est fou là, de parler comme ça, là, mais c'est ce qu'il fait. Et quand il fait ça, tu sais qu'il se sent très, très bien. Carey Price, quand je savais que ça allait bien pour Carey, c'est quand il avait un sourire aux lèvres. Quand je le voyais sourire, Carey, qui n'était pas un très grand souriant, je savais que les choses allaient dans la bonne direction. Donc, c'est un petit peu la même chose avec Cole Caulfield, honnêtement.
Quand sont allés chercher Alex Newhook, là, je ne comprenais pas ce move-là. Je ne connaissais pas Alex Newhook. Et je peux te dire que pendant les séries éliminatoires, s'il y en a bien un qui me surprend puis que je suis content d'avoir chez le Canadien actuellement, c'est lui, Alex Newhook. Il semble avoir peur d'absolument rien.
Non. Mais lui aussi a changé beaucoup de choses dans son match, un peu à la Cole Caulfield en passant. Pourquoi je dis ça? C'est que ce sont des gars extrêmement rapides, comme tu le sais. Hein? Ce sont des joueurs qui ont du talent. Bon, c'est sûr, on s'entend que Cole en a plus que Newhook. Mais être rapide, là, c'est une chose. Mais c'est pas parce que tu es rapide que tu es nécessairement efficace, honnêtement. Et c'est ce que je remarque avec le groupe d'entraîneurs des Canadiens, Adam Nicholas, entre autres, qui s'occupe des habiletés des joueurs. L'habileté, c'est pas seulement comment tu prends tes lancers, faire des passes, etc. C'est comment on fait pour que tu t'améliores et que tu trouves des façons d'être beaucoup plus efficace en zone offensive. Puis ce qu'on a fait avec ces gars-là, c'est qu'on leur a expliqué que s'ils patinaient là, sans arrêt là, en zone offensive, là, ben, c'était très difficile pour eux d'avoir la rondelle. Parce que comment un coéquipier peut te faire une passe quand tu n'arrêtes pas de patiner et tu ne sais pas où tu vas être dans deux secondes? Donc, on leur a expliqué que c'était important de se placer dans des endroits stratégiques sur la glace et pour être beaucoup plus efficace. Je pense que c'est ce qu'on voit. On ne leur a pas dit arrêter de patiner. On leur a dit continuer de rentrer en zone neutre avec de la vitesse, etc. Mais comprenez que c'est important à certains moments de ralentir. Et le fait qu'ils aient ralenti les aide de façon exponentielle. Alors, je pense que c'est ça la très grande différence avec.